Écoutez le monde changer.
Europe 1,
13h, 14h,
les carnets du monde.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi d'ouvrir ces carnets avec vous. On va écouter ensemble le monde qui lutte contre le virus, qui subit les changements climatiques, mais aussi le monde qui chante et qui invente des solutions. Je vous emmène visiter la plus grande usine à vaccins au monde. Elle se trouve en Inde et s'étend sur 55 hectares. On entendra aussi le porte-parole de l'ONG Oxfam France qui alerte « Si on continue comme ça, les populations des pays pauvres risquent de ne pas voir la couleur d'un vaccin ». Au-delà du papier toilette et des pâtes, on découvrira que certains peuples sont les champions des stocks. En Allemagne, c'est culturel, on est prévoyant, il faut faire des réserves. Et puis en Argentine, héritage des crises financières à répétition, on stocke des dollars, chacun à sa bonne planque chez soi. On sera aussi au Mexique, dans l'état du Chihuahua, qui souffre terriblement de sécheresse et qui pourtant est tenu par un vieil accord d'exporter de l'eau aux États-Unis. Enfin, on entendra le témoignage d'une Iranienne qui raconte que dans son pays, la pandémie se répand sur fond de crise économique majeure. Résultat, le quotidien est fait de pénurie et de privation. Les carnets du monde sont ouverts. Première destination dans un instant, la Grande-Bretagne, où l'on vaccine depuis mardi.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Malgré les réticences de certains, beaucoup partout dans le monde attendent les vaccins avec impatience pour essayer de se débarrasser de ce fichu virus. Europe 1 vous a raconté cette semaine le début de la campagne de vaccination en Grande-Bretagne. La toute première au monde et la toute première patiente parmi les premiers, celle qu'on appelle la patiente A, c'était cette dame, Margaret Keenan, 90 ans.
J'ai du mal à m'en rendre compte. C'est juste tellement émouvant. Je n'avais pas peur du tout, tout s'est bien passé. Mais pour le moment, je ne sais pas quoi ressentir. C'est tellement bizarre et tellement merveilleux. C'est pour la bonne cause, donc je suis si contente de l'avoir fait. C'est une maladie tellement horrible qu'on veut s'en débarrasser. Donc tout ce qui peut aider, c'est du bonus, n'est-ce pas? Donc s'il vous plaît, faites-le, c'est tout ce que je dis. Si moi je peux le faire, vous aussi.
Voilà, la vaccination a démarré aussi en Chine, en Russie, également avec le vaccin Sputnik V. Et nous, c'est en Inde qu'on vous emmène maintenant. L'Inde, où seront produits des milliards de vaccins contre le Covid-19. C'est un peu l'usine du monde. Bonjour Combastin.
Bonjour Sophie.
Vous êtes notre correspondant en Inde et vous avez pu pénétrer dans les locaux du Serum Institute of India, dans la ville de Pune, pas loin de Bombay. Alors avant la pandémie actuelle, c'était déjà le plus grand fabricant de vaccins du monde. Et là, son activité redouble.
Ouais, c'est une véritable ville dans la ville. Imaginez 55 hectares protégés comme une base militaire, abritant 50 usines et même une piste d'atterrissage.
Wow.
Et dès le mois de mai, le Serum Institute of India s'est mis sur le pied de guerre. Il travaille avec l'université d'Oxford sur le vaccin dit AstraZeneca. Mmh. C'est ce que m'a raconté Suresh Yadav, directeur exécutif de cette entreprise pharmaceutique.
Nous avons calculé qu'avec de nouvelles usines, il nous serait facile de produire 1 milliard de doses par an. Le Serum Institute a donc investi 250 millions de dollars pour ça. L'Alliance globale pour les vaccins nous a financé à hauteur de 300 millions supplémentaires. Nous devrions avoir 100 millions de flacons de 10 doses prêts d'ici la fin décembre.
Alors ce qui saute aux yeux ici en tout cas, c'est le nombre de bâtiments qui sortent de terre et les ouvriers qui s'activent partout.
Ouais. À quoi ça ressemble comme ces usines qui fabriquent ce vaccin développé avec Oxford?
Alors j'ai été autorisé à pénétrer dans une des usines qui produit déjà ce vaccin, baptisé Covishield, mais il m'a été interdit de diffuser la parole des scientifiques présents sur place. La politique de la maison, c'est l'ultra-confidentialité. Ouais. Ce que j'ai vu, ce sont des couloirs infinis, des chambres stériles, des machines high-tech, des employés en blouse et des flacons qui sortent à la chaîne.
À qui ce vaccin est-il destiné?
Bien d'abord à l'Inde, qui devrait l'administrer dès le mois de janvier à son personnel soignant et municipal, c'est-à-dire lorsqu'on parle de la deuxième population mondiale, 30 millions de personnes, et puis au reste de la population et aux 57 pays qui bénéficient de l'aide du Gavi, c'est l'Alliance globale pour les vaccins.
Ouais.
Ce sont les pays les plus pauvres, principalement en Afrique. Pour eux, le PDG du Serum Institute, Adar Punawala, s'est engagé à fournir un vaccin coûtant moins de 3 euros la dose. Pour l'instant, aucun contrat prévu avec la France.
On va en reparler de ces pays-là. Même s'il est bien avancé dans la production, le Serum Institute n'est pas seul. Il fait face à une immense compétition mondiale, évidemment.
Oui, vous avez parlé du vaccin BioNTech de Pfizer, déjà administré en Grande-Bretagne, tout comme le Sputnik V en Russie. Mais même en Inde, d'autres producteurs géants, Bharat Biotech, Zydus Cadillac, sont sur le point de lancer des vaccins. Ça n'inquiète pas le directeur exécutif du Serum Institute.
Même si l'on ne vaccine que 75% de la planète, il va falloir 12 milliards de doses. Aucun producteur n'a aujourd'hui ces capacités. On va avoir besoin de tout le monde au départ. Ceci étant dit, la compétition va ensuite se jouer sur le choix des vaccins des États. Ils se baseront pour cela sur plusieurs critères. Le vaccin est-il sûr, est-il efficace, immunise-t-il à long terme, mais aussi, est-ce qu'il est facile à conserver, à transporter et à administrer ?
Le vaccin Covishield est presque prêt, mais il est encore en phase 3 de test. Le Serum Institute a demandé à l'OMS une autorisation d'urgence pour le commercialiser. Mmh. Un autre contrat a été passé avec le laboratoire américain Novavax pour 1 milliard de doses. Aujourd'hui, le Serum Institute vaudrait plus de 10 milliards de dollars.
Wow. Merci Côme pour cette incursion au cœur de la plus grande usine à vaccins du monde, un endroit bien gardé, hein, on l'a compris. À bientôt.
À bientôt Sophie.
Et vous évoquiez Côme, hein, les pays les plus pauvres, l'accès de ces pays aux vaccins, c'est un véritable enjeu aujourd'hui. On en parle avec Robin Guittard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole d'Oxfam France. Je rappelle qu'Oxfam, c'est une ONG mondiale mobilisée pour lutter contre les inégalités et la pauvreté. Et vous tirez la sonnette d'alarme, car selon vos calculs, dans près de 70 pays pauvres, 9 personnes sur 10 n'auront pas accès à un vaccin. Sur quoi basez-vous cette estimation qui est absolument terrible ?
Eh ben, on a regardé les différents contrats qui ont pu être passés ces derniers mois entre les États et les grandes entreprises pharmaceutiques pour arriver à la conclusion effectivement que les pays les plus riches, qui représentent à peine 14% de la population mondiale, ont déjà précommandé plus de la moitié des futures doses de vaccins, 53% ouais. exactement. Ça veut dire qu'effectivement, quand 9 personnes sur 10 dans les pays les plus pauvres n'auront pas accès au vaccin, certains pays, comme le Canada, sont en mesure de vacciner 5 fois leur population ou 2 fois pour l'Union européenne.
Pourtant, il existe des organismes, des mécanismes pour que cette situation n'arrive pas. On a évoqué tout à l'heure le partenariat international Gavi, c'est-à-dire l'Alliance du vaccin, qui co-dirige COVAX, qui est un mécanisme mondial pour faire des achats groupés et pour assurer la distribution équitable des vaccins. Alors tout ça, ça ne fonctionne pas ?
Pas assez, parce qu'effectivement, on reste sur une approche qui est plus de charité que réellement de justice, c'est-à-dire un vrai système de coopération au niveau international. Et le problème avec COVAX, par exemple, c'est qu'avec les annonces de retard de Sanofi sur son vaccin, il faut savoir qu'un tiers des vaccins dans le cadre de COVAX étaient prévus grâce à Sanofi. Donc ça veut dire qu'on va encore attendre encore plus de temps pour que les pays les plus pauvres puissent effectivement avoir eux aussi accès à un vaccin.
COVAX, je crois que c'est une garantie de marché qui porte sur 700 millions de doses à répartir entre 92 pays. Or, tout à l'heure, on entendait le directeur du Serum Institute of India qui disait qu'il allait falloir 12 milliards de doses pour vacciner 75% de la planète. Donc, on n'y est pas du tout. Ça veut dire qu'il va falloir faire en sorte d'augmenter les capacités de production des différents vaccins, pour parler clair.
Exactement. Et c'est pour ça que Oxfam et un certain nombre d'acteurs demandent réellement qu'on arrête une concurrence qui n'a aucun sens en pleine pandémie, pour vraiment favoriser une coopération. Et cette coopération doit passer notamment par une mutualisation des droits de propriété intellectuelle, parce que ça n'a aucun sens que les laboratoires pharmaceutiques maintiennent un monopole sur les vaccins qui fixent des prix de manière indépendante et qui du coup vont pouvoir faire de larges profits alors qu'une grande partie de la population n'aura pas accès à ces vaccins. Donc la solution, une des solutions en tout cas, c'est de mutualiser les savoirs et les droits de propriété intellectuelle autour de ces vaccins.
Et c'est un sujet extrêmement sensible évidemment, et vous faites partie des 80 ONG européennes qui ont lancé une initiative, une pétition dans ce sens. Merci beaucoup Robin Guittard. Je rappelle que vous êtes le porte-parole d'Oxfam France, l'une des ONG mobilisées pour demander qu'une partie de la planète la plus pauvre ne soit pas privée de vaccins face à la pandémie. Merci, au revoir.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Ce coronavirus aura révélé de curieux comportements rarement vus dans les magasins. Une sorte de ruée sur le papier toilette, sur les pâtes ou sur la farine, comme si c'était presque la fin du monde. Faire des stocks, est-ce vraiment absurde ? On se pose la question aujourd'hui avec un premier arrêt juste de l'autre côté de la frontière, en Allemagne. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
On va en surprendre plus d'un. Garder des provisions, des réserves à la maison, c'est carrément une recommandation officielle du gouvernement chez vous.
Oui, et ce n'est pas lié à la crise sanitaire, puisque l'appel date de 2016 déjà, et le ministre de l'Intérieur à l'époque avait été la risée de tout le monde. Ça semblait absolument absurde dans le pays le plus riche d'Europe, mais c'est bien quelque chose de sérieux, faire des stocks. Il y a même une institution qui s'occupe ici de sensibiliser la population à cette question, l'Office fédéral des catastrophes, qui a établi une liste très précise de ce que chacun doit avoir chez soi, au cas où.
Au cas où quoi ?
Alors vous allez l'entendre, ça peut être quelque chose de très banal. Écoutez Ursula Fuchs, la porte-parole de l'Office des catastrophes.
Ça peut commencer par une coupure de courant à cause des conditions météorologiques extrêmes. Les portes des supermarchés ne pourront pas s'ouvrir. Bon là on peut rétorquer qu'il suffit de les ouvrir à la main. Mais une fois à l'intérieur, les caisses ne fonctionnent plus. En plus de ça, les réfrigérateurs sont éteints, pas de lumière ni d'aération. Et en cas de grosse coupure de courant, à un moment donné, les stations de pompage d'eau cesseront aussi de fonctionner.
Donc les calculs des experts sont clairs. Il faut avoir chez soi, en permanence, de quoi tenir 10 jours jusqu'à l'arrivée sur zone des secours, une évacuation éventuelle et des ravitaillements.
Alors qu'est-ce qu'on trouve sur cette liste ?
La priorité absolue, c'est l'eau. 2 litres d'eau par jour et par personne. Donc pour une famille de 4, ça veut dire quand même 80 litres. Ouais. Débrouillez-vous pour entreposer ça, Sophie. Ouais. Ensuite, des conserves, des aliments qui se gardent longtemps, comme des pâtes, du riz, des fruits secs, etc. Et puis des produits moins essentiels comme le café, le miel et les pâtes à tartiner qui sont très riches en graisse et en sucre. Et donc ça permet de maintenir le niveau de calories en cas de pénurie. Je vous propose de descendre dans la cave de Tobias. Il ne dit pas où elle se trouve. Et vous allez comprendre pourquoi. Visite guidée avec la vidéo de son téléphone.
Nous voilà dans mon Saint des Saints, ma cave à provisions, mon supermarché personnel, si vous voulez. Et là, tout de suite, ce qui saute aux yeux, ce sont les conserves. J'ai de quoi varier un peu, par exemple, du chili con carne. On a 3 boîtes actuellement. Des lentilles, j'aime beaucoup personnellement. Donc on en a 6-8 boîtes. Des soupes de boulettes de viande, 6 boîtes aussi. Des raviolis. Moi, j'aime pas trop, mais pour les amis de passage. Hein. Un peu de maïs, là. Et bien sûr de la soupe au vermicelle, là il pourrait vraiment y en avoir plus, des nouilles, quelques tonnes, des pois secs, tiens alors encore des paquets, j'ai vraiment beaucoup de choix et c'est important, évidemment qu'en cas de crise je peux me nourrir pendant plusieurs semaines en mangeant toujours la même chose et que je n'en mourrai pas, mais c'est pas cool.
Mais quel stock impressionnant Hélène, tout ça c'est pour combien de personnes ?
2 seulement.
2 ? Il y va un peu fort là, non ?
Oui, sans doute. D'ailleurs, il ne le dit pas, mais je pense que Tobias fait partie de la mouvance des collapsologues, on dit aussi les preppers, les gens qui se préparent à des scénarios catastrophes. Ici, en Allemagne, ce sont des personnes qui sont souvent proches de l'extrême droite, très complotistes en tout cas, pas toujours. Hein. Et d'ailleurs, l'Office des catastrophes donne lui aussi gratuitement des cours de prepping en coopération avec les communes, parce qu'être prévoyant, organisé en cas de coup dur, c'est quelque chose qui est très valorisé ici et qui est sans doute profondément ancré dans la psyché collective.
Au point que dans certaines familles, on garde des réserves de génération en génération. Expliquez-nous ça.
Alors disons qu'en travaillant sur ce sujet, j'ai rencontré une berlinoise d'une trentaine d'années dont la famille garde un poulet, enfin c'est plutôt un petit coq hein, pour être précise, stérilisé dans un bocal depuis plus de 100 ans. Oh. C'est l'arrière-grand-mère de Gisa Holzhausen qui l'a tué et préparé pendant la Première Guerre mondiale pour un baptême au cas où il n'y aurait plus de nourriture pour les invités. Bon, finalement, elle a trouvé autre chose à leur servir et le bocal est toujours là, dans la maison de l'une de ses descendantes à quelques centaines de kilomètres de Berlin.
Le verre a l'air vraiment très vieux. Le joint au caoutchouc semble poreux et il est tout noir. Et ce qui m'a surprise, c'est que le coq ne repose qu'en partie au fond, dans la gelée, ce truc gluant et orange. Tout autour, il n'y a rien, c'est du vide. Mais le coq est bien en entier dans le bocal. Il est étonnamment petit. C'est plutôt un poulet.
Alors la famille a jugé que l'étang n'était visiblement pas assez dur pendant la Première Guerre mondiale pour le manger. Même chose après pendant la crise des années 20, puis la guerre 39-45.
Après la Seconde Guerre mondiale, cette volaille avait déjà plus de 30 ans. Donc c'est à ce moment-là qu'on aurait pu le jeter sans doute. Mais c'était peut-être comme un rappel de cette époque. Ce coq avait acquis une dimension émotionnelle. Je pense que la peur de la guerre, la peur des déplacements forcés est ancrée si profondément que ça nous déchire de jeter de la nourriture.
La dimension émotionnelle du coq de 100 ans. Au-delà des réserves de nourriture, Hélène, on a en tête l'idée que les Allemands aiment aussi bien mettre de l'argent de côté.
Oui, ce sont les champions d'Europe de l'épargne. Être prévoyant, c'est une obsession allemande, disent certains. Alors ici, on répond que non, c'est une vertu. Et d'ailleurs, on utilise le même verbe pour dire s'endetter et faire une faute. Okay. Et cet argent qui est mis de côté, il ne dort pas seulement à la caisse d'épargne, la Sparkasse. Écoutez ce qu'en dit justement Gisa Holzhausen en partant de l'histoire du coq centenaire de sa famille. Elle a enquêté sur les ressorts inconscients dans la population allemande.
Il y a des gens qui ont des sommes importantes de liquide chez eux. Et moi-même, j'y pense maintenant aussi. Pour moi, ce ne serait que quelques centaines d'euros, mais pour certains, on parle de plusieurs milliers planqués en sécurité dans la maison. Quelqu'un m'a dit qu'il fallait toujours avoir 5000 euros chez soi, car avec ça, on peut passer la frontière si nécessaire. Et ce n'est pas une personne qui a connu la guerre. Je crois qu'il ne faut pas négliger combien, ici en Allemagne, on est sceptique sur la durabilité du système. On croit que tout peut s'effondrer rapidement.
Quatre régimes en un siècle, cinq même pour les habitants de l'ancienne RDA, ça laisse des traces.
Oui, il a fallu attendre cette année 2020 et l'épidémie pour que le montant des transactions réalisées par carte bancaire ou virement dépasse celui des paiements en liquide. Mmh. Et ici, il n'est pas rare d'aller acheter par exemple sa voiture en liquide.
Oui. Du même coup, on comprend mieux pourquoi Angela Merkel a été portée au pinacle avec sa politique de l'endettement zéro.
Oui. C'est une bonne mère de famille allemande. Ouais. Quand tout va bien, on fait des réserves pour se constituer un stock. Et quand les temps sont durs, qu'une épidémie frappe le pays par exemple, eh bien on peut faire face plus facilement en piochant dans le trésor de guerre. Au printemps, pour soutenir son économie, l'Allemagne a débloqué en une semaine autant que tous les autres pays de l'Union européenne réunis. Conclusion Sophie, l'Allemagne, c'est pas l'oncle Picsou assis sur son gros tas d'or pour le plaisir de le contempler. L'Allemagne, c'est plutôt la fourmi qui amasse en vue des coups durs.
C'est ça.
Quand la bise fut venue, dit la fable.
Voilà un décryptage fort utile. Merci beaucoup, Hélène. Et puis, si jamais le bocal de poulet centenaire est ouvert un de ces jours, on veut savoir ce que ça donne.
Oui, on ne veut pas savoir ce que ça sent.
Non. À bientôt, Hélène.
Au revoir.
Payer sa voiture en espèces, ça pourrait très bien arriver aussi en Argentine, où l'on va maintenant. Mais là-bas, ce sont des dollars que l'on stocke. Dans ce pays habitué aux crises économiques et financières, où la monnaie locale, le peso, ne cesse de perdre de la valeur, accumuler des billets verts chez soi est devenu une évidence, voire une nécessité. Écoutez ce reportage de notre correspondante à Buenos Aires, Aude Villiers-Moriamé.
Lucia, 31 ans, vit dans le centre de Buenos Aires avec son compagnon Thomas dans un joli appartement qu'ils ont particulièrement décoré ces derniers mois, conséquence d'un long confinement. Au milieu du salon trône une table basse tout à fait anodine en apparence où le couple garde bien planqué 2000 dollars en liquide. Comme la plupart des Argentins, Lucia a grandi avec l'idée qu'il valait mieux avoir toujours quelques dollars de côté.
Je crois que ça fait très longtemps que j'économise en dollars pour financer des projets comme un voyage ou un mariage. Mariage qui est d'ailleurs suspendu pour l'instant à cause de la pandémie. Personne n'économise en pesos. Le dollar reste stable alors que le peso perd de la valeur en quelques jours, semaines ou mois à une vitesse très importante à cause de la forte inflation que nous avons en Argentine.
L'an dernier, l'inflation en Argentine a atteint quasiment 54%. Face à une monnaie qui se déprécie constamment, tous les habitants vivent les yeux rivés sur le dollar. Ariel Wilkis est sociologue. Il a écrit un livre sur la relation des Argentins au dollar.
Le fait d'économiser en dollars dans la société argentine commence assez tôt pour les classes moyennes et les classes les plus aisées, dès les années 50. Durant les années 60 et 70, cette tendance se généralise au sein des classes moyennes et populaires. Et ce phénomène s'accompagne d'un autre. La crise de confiance des Argentins envers le système bancaire.
Con el sistema bancario.
Fin 2001, le gouvernement argentin fait face à une grave crise économique et à une fuite des capitaux. Il décide alors de limiter les retraits en banque. Les Argentins ne peuvent pas accéder à leurs économies. Et alors que les banques sont fermées, leur épargne perd énormément de valeur lorsque le peso est soumis à une forte dévaluation. Un événement à l'origine de la grande méfiance des Argentins envers les banques. Méfiance qui perdure aujourd'hui. Lucia.
En Argentine, on vit en fait avec le traumatisme de 2001. Et même si je sais qu'en 2020, les banques ont des réserves et que ce scénario ne pourrait pas se reproduire aujourd'hui, la recommandation générale chez les jeunes gens de classe moyenne ou moyenne haute est de ne pas laisser nos dollars à la banque. Donc nous, on en a une partie à la banque et une autre à la maison, au cas où.
Lucia et Thomas sont loin d'être les seuls à avoir constitué leur canuto, tel qu'est surnommé le rouleau de billets caché au domicile des Argentins. Le sociologue Ariel Wilkis.
Cette crise de confiance envers le système bancaire fait que les Argentins économisent non seulement en dollars, mais aussi en liquide, en cash. Il y a beaucoup d'endroits où les gens cachent chez eux leurs canutos.
Los canutos en
dollars, dans les livres, les poches de vêtements, les pots de fleurs,
la ropa,
Certains amis de Lucia cachent même leurs dollars dans les murs, derrière de fausses prises électriques. C'est un phénomène qui s'auto-alimente. Plus les Argentins veulent des dollars, plus la valeur de la monnaie américaine augmente et plus celle du peso baisse. Or, plus le peso se déprécie, plus les Argentins veulent des dollars. Un vrai casse-tête pour les gouvernements successifs, qui ont souvent recours à un contrôle d'échange strict pour dissuader les Argentins de récupérer des dollars. Actuellement, chaque personne ne peut en acheter que 200 par mois, ce qui n'empêche pas ceux qui veulent des billets américains de chercher à s'en procurer coûte que coûte. Cueva veut littéralement dire « grotte » en espagnol. Ce sont des bureaux de change illégaux dont on obtient le contact le plus souvent par le bouche à oreille. Dans une petite galerie commerciale du centre-ville, Silvio et Alejandro bavardent à l'intérieur d'un local qui ressemble, vu de l'extérieur, à une agence de voyage. Mais les deux hommes sont en réalité des agents de change illégaux, et ce depuis 20 ans déjà. Évidemment, cela demande une certaine logistique.
On est prudent. Très prudent. On ne garde pas d'argent au bureau. On en apporte en fonction des opérations.
On apporte aux gens l'argent directement en personne. Ça, c'est né avec la pandémie, par exemple, le service à domicile. On essaie vraiment d'être le plus discret possible. Les clients aussi sont attentifs à la sécurité et ils nous écrivent pour nous donner rendez-vous, nous demander de venir vite pour pouvoir repartir rapidement en voiture. Tout est très bien organisé et synchronisé. Et puis la police, elle sait qu'on travaille.
En Argentine, deux taux de change coexistent, l'officiel et le parallèle, aussi appelé le dollar blue, le taux auquel Alejandro et Silvio échangent pesos et dollars. Durant plusieurs mois cette année, l'écart entre les deux taux s'est creusé à un niveau jamais vu, preuve que certains Argentins sont prêts à tout pour acheter des dollars, même au double du prix officiel. Odile Moriamé, Buenos Aires, Europe 1.
Voilà, reportage assez édifiant sur cette pratique qui consiste à stocker des dollars en liquide. Retour en studio, on est en ligne avec Aude, notre correspondante. Bonjour Aude.
Bonjour Sophie.
Quelques précisions avec vous. On a compris que les Argentins sont prêts à tout pour économiser en dollars plutôt qu'en pesos, mais on en a déjà parlé avec vous. Le pays vit sa troisième année de récession consécutive. La pauvreté explose. Est-ce qu'il y a encore de quoi épargner?
Alors c'est sûr qu'il y a moins d'activité dans les bureaux de change, qu'ils soient légaux ou non. Mais ça se maintient tout de même parce que justement ce contexte économique incertain incite ceux qu'ils peuvent à mettre un peu de côté dans l'idée justement d'avoir ce matelas de sécurité au cas où. Mais c'est certain que ça ne concerne pas toute la population argentine en ce moment. Et pour beaucoup, l'enjeu, c'est surtout d'arriver à la fin du mois. D'ailleurs, Silvio et Alejandro me confiaient que de plus en plus de petits épargnants les contactent pour revendre leurs dollars. Oui. Ils n'ont plus d'autre choix en fait que de puiser dans leurs économies cachées pour payer les factures en pesos.
Comment sortir de ce cercle vicieux que vous décrivez dans le reportage, ces stocks de ce qui est finalement une monnaie étrangère au détriment de la leur?
Alors c'est compliqué parce que ça fait des décennies que le pays fonctionne comme ça et jusqu'ici aucun gouvernement n'a trouvé de solution efficace. Plusieurs ont tenté de durcir le contrôle d'échange, limiter au maximum l'achat de devises étrangères, mais ça n'empêche pas les Argentins de se procurer des dollars sur le marché noir. Et même à l'inverse, ces fortes restrictions en fait alimentent un sentiment d'inquiétude, de crise, ce qui pousse encore plus les Argentins à se tourner vers une monnaie vue comme une valeur sûre. Il y a aussi des stratégies pour encourager les Argentins à faire des économies en pesos plutôt qu'en dollars. Il existe par exemple des placements en banque avec des taux d'intérêt qui sont censés évoluer au rythme de l'inflation, mais ça ne marche pas très bien auprès des Argentins. Beaucoup, en fait, lorsqu'ils ont un petit excédent de pesos, préfèrent le dépenser en achetant des meubles ou de l'électroménager, par exemple, une autre manière d'éviter que son argent se dévalue.
Voilà, et on comprend mieux l'existence de ces étonnants stocks de dollars chez les Argentins. Merci beaucoup, Aude, vous étiez en ligne avec nous depuis Buenos Aires.
Merci Sophie, à bientôt.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Intermède musical, en fait c'est bien plus que ça. Une musique dans le monde, c'est l'occasion de découvrir des artistes qu'on entend rarement à la radio. Bonjour Angèle.
Bonjour Sophie.
Angèle Châtelier du service culture d'Europe 1, c'est vous notre découvreuse de talent. Et vous allez réveiller tout le monde là. Avec Fontaine D.C., un groupe de rock qui vient de Dublin.
Cette voix nonchalante, c'est celle de Brian Chatten. Avec sa bande, ils remettent au goût du jour avec brio les plus belles heures du post-punk, au point que leur deuxième album, A Hero's Death, est nommé cette année au prestigieux Grammy Awards. I don't belong to anyone. I don't belong to anyone. I don't belong to anyone. I don't. la musique de Fontaines D.C., oui, énervée, infatigable, mais aussi leurs textes. Avant leurs albums, le groupe a publié des recueils de poésie en s'inspirant de poètes de leur pays, l'Irlande. Fontaines D.C. sont des révoltés, dépeignent l'actualité et ses méandres avec force. Le Brexit, la lutte ouvrière, des textes qui parlent de la jeunesse irlandaise aussi, qui ne sait plus quel chemin prendre pour s'en sortir. Ils rêvent d'être des garçons dans un pays meilleur, chantent-ils dans leur premier album. Yeah. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land.
Bon, on a compris, c'est le titre de la chanson. Voilà. Et ces garçons, ils ont donc sorti un nouvel album en août dernier.
Un album plébiscité par la critique avec des titres punk, vifs. Mais alors parfois, Fontaines D.C. troque les guitares excitées contre des arpèges plus douces. Some stay behind to get drunk on the sun. They wish they could go back to spring again. Oh, such a spring. Oh, such a spring. Oh, such a spring. The noise of the town, the salt in the air. It plays all around, but I no longer care. And I wish I could go back to the spring again. Mais dans cet album, la fougue de Fontaines D.C. ressurgit très vite. Sink as far down as you could be pulled up. Happiness really ain't all about luck. Let your demeanor be a deep down self. And don't sacrifice your life for your health. When you speak, speak sincere. And believe me friend, everyone will hear. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty.
Avec un magnifique accent irlandais, hey, évidemment. Vous avez eu la chance de voir l'un de leurs concerts,
oui,
récemment.
Assise et masquée, alors vous pouvez aisément imaginer le torticolis, ah, qui m'a habité ensuite à force de bouger la tête, à défaut de pouvoir danser debout. Ouais. Et il faut vous imaginer Grian Chatten, le chanteur, un grand dadé, gringalé, aux yeux bleus perçants, qui empoigne le micro lors de ses envolées, puis fait les 100 pas sur la scène lorsque les autres musiciens s'embrasent. Il y a une énergie atomique qui peut se goûter et s'imaginer depuis chez vous, en attendant qu'il revienne en France. You won't catch me. Nah, you won't catch me sleeping. Nah, you won't catch me sleeping. So I was not born into this world to do another man's bidding. Merci. Angèle Châtelier, c'est vrai que ça réveille. Ouais,
hein.
Ça fait du bien.
Youhou, c'est des Fontaines D.C. avec leur nouvel album qui s'appelle A Hero's Death.
Merci Sophie.
À très vite,
à
Angèle. Et tout de suite, on prend la route du Mexique et de l'état du Chihuahua qui manque cruellement d'eau.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
C'est un inquiétant signe du temps. L'eau a commencé à être cotée à Wall Street cette semaine, comme elle l'est depuis quelques années en Australie, au même titre que le pétrole, l'or ou le blé. L'eau, cette matière première vitale, sera de plus en plus à la merci des places boursières. Les experts estiment par exemple qu'en Californie, la valeur de l'eau a doublé cette année à cause des sécheresses à répétition. Et c'est justement à la frontière des États-Unis et du Mexique que l'on file maintenant. Les deux pays sont séparés sur la moitié est de leur frontière par un fleuve qui s'appelle le Rio Grande côté états-unien et le Rio Bravo côté mexicain. Les deux pays partagent aussi d'autres rivières transfrontalières. Et dans ces régions semi-désertiques, il existe un contrat qui régit depuis 1944 la répartition de l'eau de part et d'autre, pour le meilleur et pour le pire. Reportage dans l'État mexicain du Chihuahua avec notre correspondante Laurence Cuvillier.
C'est l'heure du repas pour les 30 vaches et veaux de Santo Sanchando. L'éleveur bichonne le peu de bêtes qui lui reste.
Vous voyez cet enclos vide ? Il y a peu, j'avais des moutons, mais j'ai dû les vendre parce que tous les pâturages sont secs.
10 jours de pluie au total en 2020, c'est bien trop peu pour emmener paître son maigre troupeau. L'eau restera très rare pour les mois à venir. Le barrage de la Boquilla, tout proche, n'est rempli qu'à 30% de sa capacité. À cause de la sécheresse, mais aussi parce que le Mexique a ouvert les vannes pour payer les 378 millions de mètres cubes d'eau que le pays doit par contrat aux États-Unis.
On va devoir s'adapter. Quelqu'un qui a 6 hectares n'en cultivera que 2 l'année prochaine, dans le meilleur des cas, et ça va sans doute générer des conflits entre nous, parce que le peu d'eau qu'il y aura, on l'aura peut-être trop tard.
Les 130 000 familles d'agriculteurs du Chihuahua sont au bord de la détresse. Depuis août dernier, elles se sont organisées pour occuper le barrage de la Boquilla, en protestation contre les termes du contrat signé en 1944 et qu'ils n'estiment plus tenables.
On ressent chaque année les effets du changement climatique et on n'est pas encore conscient de son impact. Mais si par-dessus le marché, l'État vient nous enlever le peu d'eau qu'il nous reste pour le prochain cycle de récolte, on nous enlève les revenus dont dépendent la survie, l'éducation et la santé de nos familles.
Le Mexique reçoit en fait 4 fois plus d'eau qu'il n'en livre aux États-Unis. Le problème, c'est que l'eau est reçue du Rio Colorado, tout à l'ouest du pays, et donc loin du Chihuahua, où les besoins hydrauliques sont les plus forts. Et c'est le Chihuahua qui doit payer la moitié de la dette en eau du Mexique aux États-Unis. Graciela Acosta est militante écologiste. Elle nous emmène au barrage de La Boquilla, où une ligne grise sur les murs indique le niveau d'eau normalement atteint. Cette année, la surface se trouve plusieurs dizaines de mètres en dessous.
On nous dit, mais ça va affecter notre relation avec les États-Unis. Je le comprends. Et d'ailleurs, on a toujours honoré notre contrat. On a parfois eu des retards de paiement, mais on a toujours payé notre dû en eau. Mais c'est injuste de penser que le Chihuahua paye et ne reçoit rien en échange.
Dans le sud du Chihuahua, 83% de l'économie dépend de l'agriculture. L'altitude de la région empêche l'acheminement des ressources externes en eau. Graciela voit déjà les prémices d'un exode de réfugiés climatiques.
Beaucoup de gens vont devoir aller chercher du travail dans d'autres États ou émigrer aux États-Unis. Alors que d'habitude, des milliers de gens viennent ici de tout le pays pour travailler dans les récoltes. Cette année, il n'y aura même pas de travail pour les gens du coin.
Renégocier les termes du contrat ? Le gouvernement mexicain ne le prévoit pas. Même si Francisco Marengo, le commissaire mexicain chargé de son application, admet que les circonstances ont radicalement changé.
Le niveau du barrage a aussi baissé à cause de la quantité d'eau qui est utilisée dans l'état même du Chihuahua. On a senti les effets du changement climatique, on ne peut pas le nier. Mais la consommation humaine a aussi explosé. Et cette croissance des villes de la région n'était pas prévue en 1944 lors de la signature du contrat.
L'état du Chihuahua est passé de 700 000 habitants en 1944 à 3,5 millions aujourd'hui. Le long du Rio Conchos, qui découle du barrage de la Boquilla, il y a désormais 14 villes, dont la géante Ciudad Juárez, qui a vécu un boom industriel très gourmand en ressources hydrauliques ces 50 dernières années. Dans le Chihuahua, il pleut des problèmes bien plus que de l'eau. Laurence Cuvillier, Mexico, Europe 1.
Et l'on retrouve Laurence Cuvillier en Amérique centrale, en l'occurrence au Salvador, où elle est actuellement en reportage. Vous avez la bougeotte. Bonjour Laurence.
Bonjour Sophie.
À part les agriculteurs qui souffrent en première ligne, hein, on l'a entendu, de cette sécheresse, est-ce que les Mexicains ont conscience du problème de la rareté de l'eau? Est-ce que quelqu'un se préoccupe de la situation?
Malheureusement, Sophie, le thème du manque d'eau n'est pas prioritaire au Mexique, ni pour le gouvernement, ni pour l'opinion publique. Il ne l'est pas pour le gouvernement parce que le président mexicain Andrés Manuel López Obrador n'a rien d'un écolo. Environnement, changement climatique sont des mots qu'il ne prononce pour ainsi dire jamais. Et il ne l'est pas pour l'opinion publique parce qu'elle n'en a pas encore ressenti les effets. Mais le Chihuahua est le premier producteur national de noix, de piments, de pommes et aussi l'un des premiers producteurs d'oignons et de fourrage. Or, dans quelques mois, les prix de ces denrées vont s'envoler, certainement, parce que depuis août, à peu près, les champs sont bien moins arrosés et donc on sentira les répercussions de cette sécheresse lors des prochaines récoltes.
Alors, ce contrat bilatéral passé il y a 76 ans entre le Mexique et les États-Unis, est-ce que l'arrivée d'une nouvelle administration à la Maison-Blanche pourrait assouplir son application au regard du changement climatique et des sécheresses qui s'intensifient ?
Non, il n'y a pas vraiment de raison que l'administration de Joe Biden change le cours des choses. Et de fait, les termes du contrat sont plutôt avantageux pour le Mexique qui peut répartir sa dette en eau sur un délai de 5 ans, contrairement aux États-Unis qui doit impérativement payer sa dette chaque année. Mais le problème, c'est que le Mexique a déjà accumulé une dette en eau sur le précédent cycle de 5 ans. Alors cette fois-ci, il n'a plus le choix. Il doit payer, il doit fournir l'eau. Le gouvernement mexicain pourrait en fait demander un délai exceptionnel aux États-Unis, mais le président Obrador ne le fera pas. Il ne veut absolument pas risquer de fâcher les Américains. Il faut dire que ça exposerait le Mexique à des amendes de plusieurs centaines de millions de dollars. Pas vraiment le moment, parce qu'avec la pandémie, l'économie mexicaine s'est contractée de 10% cette année.
Merci Laurence, merci beaucoup pour cette petite virée dans le Chihuahua. Et ce coup de projecteur sur cette région donc, qui souffre de stress hydrique. À très bientôt Laurence.
Au revoir Sophie.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
On a choisi de faire une étape iranienne dans les carnets aujourd'hui. L'Iran, c'est le pays le plus touché du Moyen-Orient par le Covid-19. La barre du million de contaminations a été passée il y a 10 jours. Officiellement, le virus aurait fait quelque 52 000 morts, mais les observateurs du pays estiment que ce bilan est très largement sous-estimé. Deux semaines de confinement seulement ont été imposées en mars dernier. Depuis, c'est l'urgence économique qui a pris le dessus, laissant la voie libre au virus. On va le voir, la situation économique est catastrophique, surtout depuis que Donald Trump a décidé en 2018 de sortir de l'accord sur le nucléaire et d'imposer de nouvelles sanctions à l'Iran, des sanctions américaines qui ont fait plonger les exportations de pétrole iranien et qui ont affecté tout le système bancaire. Bonjour Marion Gauthier.
Bonjour Sophie.
On s'intéresse au quotidien des Iraniens confrontés à cette double crise sanitaire et économique. Avec un chômage et une inflation autour de 40%, petite précision d'abord qui donne une idée du climat dans le pays. Ça a été difficile de recueillir la parole d'Iraniens, pourtant vous en avez appelé beaucoup.
Oui, la plupart des personnes que j'ai pu joindre ont refusé d'être enregistrées. Certaines n'ont même pas voulu qu'on échange par message pour qu'il n'y ait aucune trace écrite. Et ce que me disaient ces personnes, c'est « j'ai peur, je ne veux pas réveiller les soupçons des autorités, elles connaissent ma voix » ou encore « nous avons l'interdiction de transmettre des informations sociales à l'étranger ».
Alors, une jeune femme a accepté d'être interviewée, on l'appellera Essia, on a changé son prénom pour la protéger, on ne donnera pas non plus son métier. Elle habite à Téhéran et c'est à travers sa parole qu'on va approcher le quotidien d'une partie des Iraniens.
Oui, et ce quotidien est envahi par le Covid pour commencer. Le virus a emporté deux proches d'Essia, sa tante diabétique, son cousin. Elle et ses parents ont aussi été contaminés. Il a fallu se battre pour que sa mère s'en sorte. Elle était si affaiblie qu'elle n'a pas pu marcher, se lever pendant deux mois.
On n'est pas allé à l'hôpital parce qu'ils sont pleins ici. Et il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles on meurt plus vite là-bas. Donc on a demandé au médecin de venir à la maison. Il lui a prescrit des vitamines, mais les pharmacies ne donnent qu'une seule ampoule par personne.
Et certains médicaments sont rationnés, d'autres sont carrément introuvables. La tante d'Essia n'a rapidement plus eu accès à son insuline, par exemple.
Et c'est la contrebande des médicaments qui en profite, évidemment.
Oui, et ce n'est pas nouveau. Alors, plusieurs Iraniens m'ont effectivement confirmé que des médicaments introuvables par voie légale pouvaient être dégotés pour peu de connaître les ficelles. Une rue de Téhéran, en particulier, serait un véritable marché noir dans lequel vous pouvez trouver tous les soins dont vous avez besoin, à des prix évidemment exorbitants.
Un de mes cousins, qui a aussi contracté le virus, avait besoin d'un traitement assez lourd. Sa fille a dû aller dans cette rue pour trouver le médicament, et c'était très cher. Chaque ampoule, c'était 15 millions de rials, presque 300 euros, et il a dû en prendre 30.
Pareil pour les tests PCR, Essia a dû aller dans un hôpital privé pour pouvoir en faire un, 6 millions de rials, soit 117 euros. Et le second test, deux semaines après avoir été diagnostiquée positive, pas besoin, lui a répondu le médecin en personne. On n'a pas assez de tests et c'est très cher pour vous. Une manière comme une autre de faire faire des économies à ses patients.
Alors, faire des économies, c'est très important en ce moment en Iran. Les dépenses des familles ont augmenté de près de 47% par rapport à l'an dernier. Et ça, d'après le Centre iranien des statistiques.
Et vous pouvez voir sur les réseaux sociaux de longues files d'attente pour les distributions de poulets ou autres aliments subventionnés par l'État. Pour le moment, Essia y arrive encore, mais elle vit sur son épargne. Elle n'est plus payée depuis des semaines et garde tout ce qui lui reste pour les besoins essentiels, les courses alimentaires, les produits d'hygiène et donc les médicaments.
Avoir assez d'argent, c'est une expression qui n'a pas de sens ici. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai assez d'argent pour acheter de quoi manger, mais chaque semaine, quand je vais au supermarché, les choses sont plus chères. Surtout la viande, le riz, les fruits, tout devient plus cher. Et comme nous achetons moins, beaucoup de commerçants ont fait faillite.
Alors la baisse continue du pouvoir d'achat, les pertes d'emploi. L'Iran tient les États-Unis pour responsables de ces problèmes économiques. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle justifie la légèreté des mesures prises contre le Covid.
Oui, le mois dernier, 65 présidents de facultés de médecine iraniennes ont demandé un confinement strict pendant au moins 15 jours. Un appel pas vraiment entendu. Les commerces non essentiels ont fermé un temps dans les grandes villes du pays, mais ils ont d'ores et déjà rouvert, comme les mosquées. Un couvre-feu a été instauré à partir de 21h, mais juste pour les voitures. Mmh. Alors certains s'en inquiètent, voudraient plus de protection et d'aide de l'État pour faire face à l'épidémie. Essia s'inquiète d'autant plus que nombre de ses concitoyens semblent avoir cédé au fatalisme.
Quand je regarde les infos, parfois je pleure de voir tous ces gens mourir à l'hôpital et personne ne fait rien. Les deux semaines pendant lesquelles tous les commerces non essentiels étaient fermés, beaucoup de gens n'y prêtaient pas attention et ils ont continué à sortir. C'est comme s'ils étaient sans espoir et impuissants. Ils sortent et ils s'en fichent de mourir. Comme les gens vivent dans la misère depuis longtemps, je pense qu'ils s'en foutent. Les gens sont devenus léthargiques, ils ne ressentent rien et c'est vraiment triste.
Et comme si toutes ces difficultés ne suffisaient pas, Marion, le gouvernement serre la vis.
C'est en tout cas ce qu'un journaliste m'expliquait. Face à l'ampleur de ces impasses au quotidien, le gouvernement craindrait une révolte populaire et donc il renforce son contrôle. Les gardiens de la révolution seraient de plus en plus actifs, multipliant les arrestations pour intimider la population iranienne et l'inciter à ne pas faire de vagues.
Ce qui explique sans doute les réticences que beaucoup ont eues à vous parler, Marion. Merci beaucoup de nous avoir permis de toucher du doigt cette situation extrêmement compliquée pour les Iraniens. À travers ce témoignage d'Essia. Merci Marion.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Il est grand temps de faire un petit tour en Autistan et donc de retrouver Joseph Chovanec, notre guide dans cette contrée particulière. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Avec votre triple casquette, comme d'habitude, philosophe, autiste Asperger et surtout amoureux des voyages, ce qui vous inspire cette semaine, c'est la manière dont certains ont dû repenser leur activité à cause du virus.
Et oui Sophie, et c'est possible, bien plus souvent qu'on ne le croit. Pendant mes voyages, j'ai pu observer quantité d'exemples curieux et inspirants. Déjà, il y a un système simple, très efficace, celui de tiroirs transparents automatisés. C'est un peu partout en Hollande, mais aussi dans la Flandre belge, qui est culturellement proche de la Hollande. Vous verrez dans la rue des espèces de grandes armoires remplies de petits tiroirs transparents. Dans chaque tiroir, des produits chauds. Vous payez à une borne voisine et le contenu du tiroir est à vous. Ce système m'a sauvé bien des fois d'une fin terrible à Amsterdam, à Leuven ou ailleurs.
J'ai déjà vu toutes sortes de distributeurs mais jamais de produits chauds.
Mais comment cela ? En fait, c'est beaucoup mieux qu'un distributeur automatique. Les produits sont certes chauds mais ils sont si frais, impossible de faire de grands stocks car il n'y a qu'un seul produit par tiroir. Le système est entretenu plusieurs fois par jour. Et c'est psychologiquement beaucoup plus proche d'un restaurant self-service que d'un banal distributeur à friandises, un peu façon hall de gare. Et depuis que je sillonne la campagne hollandaise à vélo, j'ai compris que ce genre d'endroit avait un sens majeur pour les communautés rurales.
Parce que vous en trouvez aussi à la campagne ?
Mais évidemment, l'autre jour, j'étais dans la province de Zélande. J'étais au milieu de nulle part, sur le terrain parfaitement plat des polders. Et soudain, j'ai vu de loin un chalet illuminé. Il avait l'air accueillant. Je m'approche, je rentre et je vois à l'intérieur des tiroirs partout et personne à des kilomètres à la ronde. Les agriculteurs du coin y mettent en vente leurs produits, patates, fromages, que sais-je. Mais il y a aussi des choses plus sucrées et chaudes. Alors inutile Sophie de préciser quel tiroir je vide en priorité. Il y a aussi des livres sur une étagère gratuite. Mais parfois la confiance sociale va plus loin encore. Il y a une dizaine d'années, j'étais étudiant dans un coin rural de Taïwan. Au village, il y avait un magasin sans vendeur humain. On arrivait, on prenait ce que l'on voulait, on mettait l'argent dans un panier et c'était bon.
Il n'y avait pas trop de trous dans la caisse ?
Mais Sophie, j'ai interrogé le propriétaire et il m'a dit qu'en des décennies d'existence, jamais l'argent n'avait manqué dans la corbeille. Et à ma plus vive surprise, j'ai découvert qu'un tel système, fondé entièrement sur la confiance, pouvait encore exister en Europe. Avant-hier, je me baladais en Allemagne, dans la province de Westphalie, et plus précisément à Sieff, c'est un village rural. Et soudain, j'ai vu une boulangerie dûment signalée comme telle. Je regarde l'état habituel de beignets, la cafetière, etc. Mais personne. C'était libre service. Les prix étaient indiqués. On était prié de mettre l'argent dans une corbeille et aucune caméra apparente. Waouh, paradis d'autistes.
Il y en a quelques-unes comme ça aussi, des boulangeries en France, dans les campagnes.
Ah, Sophie, vous m'indiquerez où hein, à visiter. Mais je crois qu'il n'y a pas que les boutiques qui peuvent bénéficier d'un tel système, hein, c'est-à-dire sans présence humaine. Il est temps que je vous parle de l'un des musées les plus épatants qu'il m'ait été donné de visiter. Je fouinais dans les cartes géographiques, c'est l'un de mes passe-temps, et je suis tombé dans la commune belge germanophone de Raren sur un musée étrange, le Meurenmuseum, littéralement musée des carottes. Intrigué, j'ai décidé d'y aller. Et ce fut l'une des découvertes les plus sensationnelles qui vous laisse bouche bée. Il s'agit d'une tour ancienne que des passionnés ont remplie d'objets sur le thème de la carotte. Hein. Et mieux encore, on ne rentre pas dans la tour, mais l'une des parois est vitrée. On appuie sur un bouton, il y a un mécanisme d'horlogerie qui fait défiler derrière la vitre les collections à propos de la carotte. Hein. Il y a des diagnostics d'autisme qui se perdent. Et maintenant, mon rêve est clair. Construire un tel concept de musée Covid résistant sur diverses thématiques autistiques. C'est une vraie carotte dans la vie.
Ah, vous avez un projet de musée ?
Absolument, mais chut, suite au prochain épisode.
Ok, très bien. Merci beaucoup, Joseph, et à dimanche prochain.
À tout bientôt, merci.
Et voilà, c'est l'heure de refermer les carnets. Un grand merci de nous avoir accompagnés, d'avoir écouté Le Monde avec nous. Comme d'habitude, le podcast est disponible sur europe1.fr pour écouter ou partager l'émission. Et je vais céder la place à l'ami Nicolas Caro. Hello Nicolas.
Bonjour Sophie.
Invité, bibliothèque, quel est le programme ?
On va parler des papas avec Alexandre Lacroix, qui est écrivain, philosophe, et puis qui est romancier et qui publie un roman vrai sur la paternité. Il a 5 enfants, donc il y a de quoi faire.
Bien.
Et puis nous visiterons la bibliothèque du comédien Antoine Duléry.
Super, très bonne émission à vous, on vous écoute. Avec Marc Fréjean qui a réalisé les carnets et Marion Gauthier qui m'a aidé à les préparer et que je remercie. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien.